une bonne question à vous poser. Est-il important qu'une église ait un programme pour aider ses membres qui sont pauvres? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien utile aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mon cœur est rempli de joie à la pensée qu'on va tous recevoir un bon enseignement de la part de Dieu au cours de cette émission. Depuis qu'on a commencé au début du livre de la Genèse, on a beaucoup reçu de sa part et j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il nous réserve suite aux questions que voici. Est-il bon qu'un pasteur soit un homme à tout faire? Quelle qualification une personne doit-elle avoir pour devenir diacre? Quelle est la signification de l'imposition des mains? Est-ce que toute église devrait avoir un programme anti-pauvreté pour ses membres? Est-ce que le Seigneur abandonne le croyant quand il est persécuté? Dieu est fidèle. Quand on lui demande quelque chose selon sa volonté et sans douter, c'est sûr qu'il va nous l'accorder. Alors demandons-lui de nous enseigner sa merveilleuse parole par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse parce que tu es merveilleux. Merci de nous la communiquer. Merci pour la liberté qu'on a de l'entendre aujourd'hui. Parle à nos cœurs, instruis-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu la sévérité de Dieu envers les chrétiens charnels de la jeune Église. Il l'a protégée en punissant de mort un couple qui a menti au Saint-Esprit afin de bien paraître aux yeux de l'Église. Dieu a appuyé le témoignage des apôtres en leur accordant de faire des miracles et des prodiges. Les gens se convertissaient, et cela suscita la jalousie des Sadducéens qui firent arrêter les apôtres. Cependant, les apôtres choisirent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Sanhédrin les libéra après les avoir fait battre de verges. Ceci était injuste, parce que les apôtres n'étaient pas coupables d'aucun crime. Dans ce chapitre, nous verrons qu'Ananias et Saphira ne furent pas les seuls chrétiens charnels et les problèmes que cela entraîna chez la jeune Église. Ananias et Saphira étaient des croyants sauvés, mais Dieu ne leur a pas permis d'infester la jeune Église avec leurs mensonges. Maintenant, un autre problème va se manifester, et cela résultera dans l'élection de diacres. Dans la deuxième partie du chapitre, un des diacres devient le premier martyr. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui en lisant Actes chapitre 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Cet incident se passe très tôt dans le début de l'Église. Les premiers chrétiens ont tenté de vivre en communauté et de mettre leurs biens en commun. Cela a fonctionné au début. Ensuite, des chrétiens charnels ont eu une mauvaise influence sur l'assemblée. Nous avons déjà vu le cas d'Ananias et de Saphira, qui ont cru pouvoir mentir à Dieu. Maintenant, nous voyons une tension entre les hellénistes et les Hébreux. Ceci n'est pas un conflit entre deux races ou de l'antisémitisme. Les hellénistes étaient des juifs qui parlaient grec. Ils provenaient du milieu culturel grec alors que les Hébreux suivaient scrupuleusement la loi mosaïque. Les deux groupes ne se sont pas compris. Des experts estiment que l'Église devait compter environ 25 000 chrétiens. Cette Église n'était pas parfaite. Nous entendons des gens dire qu'il faudrait revenir à l'état de l'Église primitive, car elle était consciente de sa puissance, et nous sommes conscients de problèmes. Ceci est une demi-vérité, chers amis. L'Église de Jérusalem avait la puissance de l'Esprit dans une mesure élevée, mais elle avait aussi ses problèmes. toutes les églises ont leurs problèmes. L'état spirituel élevé de l'Église fut diminué alors que Satan y provoqua des divisions et de la confusion. Alors que les chrétiens partageaient leurs biens et mettaient tout en commun, l'égoïsme de la vieille nature s'est vite manifesté. Des comportements charnels sont apparus. Les hellénistes, qui devaient former un groupe minoritaire, se sentaient négligés et ils ont demandé un traitement égalitaire pour tous. La vie communautaire ne fonctionnait pas aussi bien qu'espéré. Le problème fut porté à l'attention des apôtres. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Les apôtres pensaient qu'ils ne pouvaient pas négliger l'étude et l'enseignement de la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils savaient que ce devait être leur priorité. S'ils servaient aux tables, les conséquences sur leur ministère seraient néfastes. Ils devaient occuper leur temps à la prière et à l'étude de la parole. Un pasteur ne devrait pas être un homme à tout faire. Chaque église devrait être consciente que ses pasteurs et ses anciens devraient avoir le temps nécessaire pour étudier la parole et prier. Malheureusement, les églises cherchent des pasteurs à tout faire. Il doit tout organiser, tout promouvoir, être un gestionnaire. C'est malheureux. D'ailleurs, les églises en souffrent. Votre pasteur devrait avoir un bureau où il peut étudier sans être constamment dérangé. Il arrive souvent qu'un pasteur doive aménager son bureau chez lui s'il veut la paix pour étudier. Le local que l'Église lui assigne comme bureau n'est pas aménagé pour étudier, mais pour gérer l'Église. Il devient donc un administrateur. Versets 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Sept hommes furent désignés pour gérer la distribution de la nourriture afin que les apôtres ne soient pas distraits de leur mission première, qui est de prier et d'enseigner. Donc, ils ont remis le fardeau de la gestion à d'autres personnes. Notez la liste des qualifications d'un diacre qui devait gérer les biens matériels de l'Église. Je crains qu'en élisant des diacres, de nombreuses églises négligent de consulter cette liste. Certains chrétiens affirment qu'ils ne désirent pas occuper un poste qui demande les qualifications spirituelles d'un pasteur ou d'un ancien, mais qu'ils sont disposés à gérer les biens matériels de l'Église. Voici 3 qualifications pour le poste de diacre de service aux tables. Mes amis, le poste de diacre demande un état spirituel aussi mature que celui d'un ancien et autant de prières et de sagesse. Examinons la liste. Les gens devaient estimer les candidats et en parler en bien. Personne ne devait douter de leur honnêteté. C'est malheureux lorsqu'un diacre est d'une honnêteté douteuse et que les membres et le pasteur de l'Église ne peuvent pas lui faire confiance. Un tel homme ne devrait pas conserver son poste. La deuxième qualification est posséder la plénitude de l'esprit. Il ne faut pas être enivré de vin, mais enivré de l'esprit, en être rempli. Comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Troisièmement, ce doit être des hommes remplis de sagesse. Ils doivent être capables d'appliquer les vérités spirituelles. C'est essentiel qu'il en soit ainsi, puisqu'ils gèrent les biens matériels de l'Église. Cela doit être fait selon des principes spirituels et non les principes corrompus du monde des affaires. Nous verrons aussi qu'Étienne était un homme qualifié pour le poste de diacre. Il était un homme de sagesse, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Actes, chapitre 6, verset 10. Nous allons y revenir. Il avait des convictions bibliques ainsi que la foi. Sa foi agissante lui permettait de servir de témoin. ce n'est pas la grandeur de sa foi qui comptait, mais l'objet de sa foi, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme exerçait son ministère avec la puissance de l'Esprit. C'est ce type d'homme qui fut choisi comme diacre, et c'est ce type d'homme qu'il nous faut élire à nos conseils d'Église. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Plus loin, dans ce livre des Actes, nous parlerons de nouveau d'Étienne et de Philippe, mais nous n'entendrons plus parler des autres hommes. Ils étaient des chrétiens exemplaires dans l'Église primitive. Bien qu'ils aient servi aux tables, la Bible dit qu'ils étaient des hommes spirituels. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Dans l'esprit de nombreuses personnes, un aspect surnaturel est rattaché à l'imposition des mains. Ces personnes pensent qu'imposer les mains communique quelque chose à la personne qui se soumet au rituel. En fait, la seule chose que vous pouvez communiquer en imposant les mains, ce sont des germes et des microbes. Vous ne pouvez pas transmettre aucune puissance de cette façon. Quelle est la signification de l'imposition des mains? Comme nous l'avons vu en étudiant les sacrifices dans le livre du Lévitique, le pécheur posait les mains sur l'animal qui serait sacrifié. Cela indiquait que l'animal mourait à sa place. L'offrande était ainsi identifiée au pécheur. Lorsque les apôtres ont imposé les mains aux diacres, cela a indiqué à tous que les diacres étaient désormais leurs partenaires dans l'œuvre. Cela a indiqué à tous que les hommes étaient mis à part pour une tâche dans l'Église. Ils travaillaient à l'œuvre du Seigneur Jésus et ils représentaient les croyants qui formaient l'Église, le corps de Christ. Notez, ces hommes étaient assignés à un travail social. L'Église primitive s'occupait des siens. Je crois qu'il devrait en être encore ainsi aujourd'hui. L'Église primitive avait un programme anti-pauvreté destiné à ses membres. L'Église contemporaine devrait encore faire cela. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il est essentiel que la parole de Dieu se répande encore aujourd'hui. C'est le but de notre émission radiophonique. Nous prions de tout cœur afin que la parole se répande de plus en plus. Notez que de nombreux sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres, se sont convertis au Seigneur Jésus. Certains ont peut-être été témoins de la déchirure du rideau dans le temple lorsque le Seigneur Jésus est mort. Ils se sont peut-être convertis à cause de cet incident. Maintenant, suivons Étienne, un des grands hommes de Dieu dans l'Église primitive. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Tout comme les apôtres, les diacres avaient le don de faire des miracles. Ils occupent une position unique. Parce qu'Étienne témoigne avec puissance, il suscite de la haine et de l'hostilité de la part des Sadducéens. Ils trouvèrent de faux témoins afin de faire condamner Étienne par le Sanhédrin. Versets 9 à 15. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne est conduit devant le Sanhédrin, et les Sadducéens produisent des faux témoins. Ceux-ci disent des demi-vérités. Le Seigneur Jésus avait dit qu'il détruirait le temple et qu'il le reconstruirait en 3 jours, mais il parlait de son corps. Les faux témoins ont mal rapporté et mal interprété les paroles lors du procès d'Étienne. Ils ne comprennent pas lorsqu'Étienne affirme que le temple de Jérusalem restera désert. En fait, il était déjà désert puisque le Seigneur Jésus n'y était pas admis. Il déforme les propos d'Étienne au sujet des traditions mosaïques. Les hommes ne sont pas sauvés par l'obéissance à la loi, mais par pure grâce venant de Dieu. Le salut était aussi par grâce du temps de Moïse. Les accusations des témoins sont fondées sur des demi-vérités. Le Seigneur n'abandonne pas les persécutés. Les juges aperçoivent quelque chose de merveilleux sur le visage d'Étienne. Cet homme était rempli de l'Esprit et de la grâce de Dieu. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens lors des persécutions. Notre texte d'aujourd'hui fait ressortir quelques principes spirituels. Nous reviendrons à Étienne à la prochaine émission, alors que nous étudierons son discours devant le Sanhédrin. Quelle charge de travail impose-t-on à nos pasteurs et anciens? Notez que le Seigneur appelle des personnes à prier et à enseigner la parole. Chargeons-nous nos pasteurs à tel point qu'ils ne peuvent passer du temps avec le Seigneur comme ils le devraient? Doivent-ils donner des études, emprunter de livres chrétiens, faute de temps pour se préparer? Doivent-ils négliger la parole parce qu'ils doivent tout faire ou trop faire dans l'Église? Un pasteur devrait jamais perdre de vue sa responsabilité principale. Il devrait s'habituer à déléguer bien des tâches aux membres de son Église afin de pouvoir prier, étudier et enseigner. Équipons-nous nos pasteurs d'outils et de livres adéquats pour étudier la parole et bien se préparer à leur ministère. Leur aménageons-nous un endroit convenable pour travailler. Doit-il partager son bureau avec la secrétaire ou le comptable de l'Église? Qu'en est-il des personnes que nous élisons au poste de pasteur, d'ancien, de diacre? Tenons-nous compte des qualifications spirituelles? Voici des raisons pour lesquelles des gens furent élus sur des conseils d'anciens et des conseils de diacres. Un homme se retire et cède son poste à son fils. C'est la personne choisie par un pasteur ou un ancien, du favoritisme. C'est le fils du pasteur ou d'un ancien. Il a une belle personnalité, il parle bien. Il nous faut un certain nombre de personnes au conseil, et seulement celui-ci veut le poste. Il réussit bien dans le monde des affaires. Il a beaucoup d'instructions. Il est populaire dans l'Église. Dans une certaine confession religieuse, une règle exige 7 diacres au conseil, car l'Église de Jérusalem en avait élu 7. Donc, pour être biblique, selon eux, il faut 7 anciens. Dans une petite église du sud de l'Ontario, il y avait seulement 7 hommes dans l'église. Ils étaient tous au conseil, qu'importe leur qualification spirituelle. Aucune des raisons si haut mentionnées dans la liste ne disqualifie une personne pour être ancien ou diacre. Il n'y a rien de mal à réussir en affaires, à être instruit, à être populaire, à être le fils d'un ancien ou d'un pasteur. Mais, chers amis, ce ne sont pas les qualifications dont la Bible nous demande de tenir compte. N'oublions pas que les pasteurs et les anciens ont la responsabilité de notre santé spirituelle, de l'âme. Consulteriez-vous un médecin dont l'incompétence est notoire? Consulteriez-vous un médecin qui n'a pas une bonne réputation? Il est d'autant plus important de désigner des hommes spirituellement qualifiés pour enseigner dans une église. Notre choix va avoir des conséquences sur l'état éternel des âmes, de notre communauté et sur notre croissance spirituelle. Je vous fais la lecture de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et suivants. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 13. Voyez comment la parole de Dieu est claire, précise. Pour devenir un serviteur de Dieu, il faut bien diriger sa maison, avoir un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui que Dieu a choisi, que Dieu lui-même a formé, que Dieu a qualifié de devenir son serviteur. Toi, j'espère que tu as reçu Christ dans ton cœur comme sauveur et Seigneur de ton existence, et que maintenant tu t'es joint à une église locale, là où tu peux recevoir la nourriture adéquate pour ton âme, les études basées sur la parole de Dieu, que cette vérité t'est affranchie du péché, et que maintenant elle soit ta nourriture quotidienne, nourriture spirituelle, afin de faire de toi un homme et une femme matures spirituellement, et de devenir la servante, le serviteur. Et pourquoi pas un jour devenir diacre, ancien, ou même pasteur de l'Église du Christ. Dieu recherche de ses hommes et de ses femmes fidèles. Il est en train d'œuvrer dans votre vie, dans votre cœur. Écoutez ce texte tiré d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but que Dieu veut atteindre avec chacun d'entre nous. Nous faire semblables à l'image de son Fils Jésus. À travers tout ce que nous pouvons vivre, à travers les épreuves, les circonstances. Romains chapitre 8, versets 28 et 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel est son plan pour notre vie? Le verset 29 de Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà son but, devenir semblable à son Fils. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Actes chapitre 7.
Merci, Réjean. À la dernière émission, j'ai cité Étienne en exemple sans réaliser que Réjean nous parlerait de lui aujourd'hui. Étienne est tout un modèle pour nous. Êtes-vous d'accord avec moi? On a vu qu'il pardonnait à ceux qui le lapidaient, tout comme Jésus qui demandait à son Père de pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Et aujourd'hui, Réjean nous a décrit le visage d'Étienne comme ressemblant à celui d'un ange alors qu'il était sur le point de rendre l'âme devant ses persécuteurs. Quel modèle! Ici, en Amérique du Nord, je trouve qu'on a la vie pas mal facile. Normalement, ce qu'un chrétien subit de la part des persécuteurs, C'est une parole qui fait mal, une menace qui généralement n'est pas exécutée. La séparation d'avec ceux qu'il aime parmi les membres de sa famille ou parmi ses amis, ses collègues. Mais je sais qu'en Chine et dans d'autres pays, il y a encore des croyants qui sont mis à mort à cause de leur foi. Je rends grâce à Dieu. Je le remercie de cette liberté qu'on a ici dans notre pays, de pouvoir lire sa parole, la mettre en pratique et l'entendre prêcher et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce à tous ceux qui nous entourent sans subir la moindre égratignure. Ça me fait réaliser qu'il est grand temps que nous utilisions ce privilège au maximum pendant qu'on peut le faire. Qui sait s'il ne viendra pas des jours où on nous en empêchera? Mes petites souffrances morales ne sont pas grand-chose comparées aux souffrances d'Étienne. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, es-tu persécuté parce que tu parles de Jésus aux gens de ton entourage? Si oui, c'est normal. La parole de Dieu a toujours un effet quelconque sur les gens. On peut voir ça dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Paul nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on peut voir que lorsqu'on parle de la parole de Dieu à quelqu'un, les sentiments et les pensées de son cœur sont dévoilés. Et généralement, on n'aime pas que les sentiments et les pensées de nos cœurs soient dévoilés. C'est comme ce que je vous ai raconté déjà concernant la journée de ma conversion, alors que la personne qui m'annonçait le plan de Dieu pour me sauver et me donner la vie éternelle m'a dit « Caro, il faut d'abord que tu avoues que tu es une pécheresse perdue. » Je n'ai vraiment pas aimé entendre ça. Surtout que c'était vrai, parce que les sentiments et les pensées de mon cœur étaient dévoilés. Mais finalement, j'ai cédé devant la puissance et l'amour de Dieu. Je me suis repenti. J'ai décidé de me détourner de ma vie de péché et de me tourner vers Dieu qui m'offrait le don gratuit de la vie éternelle. Et j'ai dit, « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'a fait. Et maintenant, je suis certaine que le jour où je mourrai, j'irai tout droit au ciel pour être avec le Seigneur éternellement. Et toi, mon ami, entends-tu Jésus frapper à la porte de ton cœur en ce moment? Écoute sa voix à travers la mienne. Il te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Reçois Jésus comme ton sauveur. »
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.